Je n'aime pas raconter ce qui ne reviendra plus, comme le rêve, comme la drague, comme la vie passée, et donc comme le roman à l'amnésique. Et mon lien affectif, vivant, bien sûr, n'est pas avec mon passé, il est avec mon présent, dans ses dimensions affectives, relationnelles, intellectuelles. Par conséquent, si je fantasme d'écrire un roman, le matériau, le seul matériau que je puisse envisager de me donner, c'est mon présent. Et ici, tout de suite, un problème qui va orienter le cours de cette année. Peut-on faire du récit ou du roman avec du présent? Comment concilier, comment dialectiser la distance impliquée par l'énonciation d'écriture, d'une part, et d'autre part, la proximité, l'emportement du présent qui est vécu à même l'aventure. Parce que le présent, c'est ce qui colle, c'est ce qui colle à moi, comme si on avait le nez sur le miroir. Et si on a le nez sur le miroir, on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans, ou on le voit d'une façon difficile. Donc le présent, pour quelqu'un qui veut écrire, ça revient à avoir le nez collé à la page. Or, comment écrire longuement, couramment, puisque c'est ainsi que je fantasme le roman, comme une écriture longue, comment écrire longuement, couramment, d'une façon courante, coulée, filée, en ayant un œil sur la page, ou sur la main qui écrit, et l'autre sur ce qui m'arrive, qui est la définition de l'aventure. Car en somme, j'en reviens à cette idée simple, mais qui me paraît intraitable, à savoir que la littérature, car au fond mon projet est essentiellement littéraire, la littérature, ça se fait toujours avec de la vie. Ça se fait toujours avec de la vie. Et mon problème est que je ne crois pas avoir accès, ou je crois n'avoir pas accès, à ma vie passée. Ma vie passée est dans la brume, c'est-à-dire dans la faiblesse d'intensité, sans laquelle il n'y a pas d'écriture. Ce qui est intense pour moi, c'est la vie présente qui est mêlée structurellement, c'est là m'a donné, au désir de l'écrire. Par conséquent, la préparation du roman se réfère à la saisie de ce texte en quelque sorte parallèle, qui est le texte de la vie contemporaine, de la vie concomitante. Or, s'il m'apparaît difficile, dans un premier temps, de faire du roman avec la vie présente, il serait faux de dire qu'on ne peut faire de l'écriture avec du présent. On peut faire de l'écriture avec du présent, mais mon problème c'est de savoir si on peut faire du roman avec le présent. Mais on peut écrire le présent, on peut écrire le présent, et comment? En le notant au fur et à mesure qu'il tombe sur vous, sous votre regard, sous votre écoute. Ainsi se découvre enfin, et je suis un peu au bout de mon introduction, en tout cas aujourd'hui, le double problème dont la clé commande la préparation du roman, c'est-à-dire de mon roman, et donc constitue le premier objet du cours de cette année. À savoir, double problème donc. D'une part, la notation. Premier problème, la notation, c'est-à-dire la pratique de noter. C'est pourquoi il faudrait accepter un mot un peu pédant, c'est-à-dire un mot latin, le mot notation en latin, à savoir notatio, puisque vous savez que malheureusement en français, les mots en sion ont fini par désigner très vite le produit de l'acte et non pas l'acte, n'est-ce pas ? Une notation, c'est finalement une note. Mais moi, je voudrais garder la valeur active du de l'acte de noter, et c'est pour ça que j'appelle ça notation. Donc, à quel niveau est-ce que cette pratique se situe? Est-ce que c'est au niveau du réel, c'est-à-dire quoi choisir, ou au niveau du dire, c'est-à-dire quelle forme, quel produit donner à la notation? Qu'est-ce que cette pratique implique du sens, du temps, de l'instant, du dire? Et la notation apparaît d'emblée, disons à l'intersection de deux à l'intersection problématique d'un fleuve de langage, du langage ininterrompu, qui est en nous et autour de nous, et qu'on peut appeler la vie. Je dirais que la vie, au sens bêtement banal du mot, la vie, au sens que ça peut avoir pour quelqu'un qui écrit, la vie, c'est le fleuve de langage qui nous traverse, qui nous entoure. C'est ça, la vie. Donc, à l'intersection d'un fleuve de langage, la vie, le texte de la vie, le langage ininterrompu, la vie, qui est texte à la fois enchaîné, filé, successif, et en même temps texte superposé, histologie de texte en coupe, palimpseste, n'est-ce pas? Dans la vie, il y a un emportement des langages le long du temps, et puis il y a des langages superposés à chaque instant. Le langage, celui que nous tenons aux autres, que nous recevons, forme une sorte de palimpseste. Donc, d'une part, la vie, le langage coulé, enchaîné, et d'autre part, donc, autre moment, autre point de l'intersection, marqué, isolé, marqué quelque chose dans ce flux ininterrompu. Marqué, c'est-à-dire isolé, et je dirais avec un sens presque religieux, puisque l'origine certainement indo-européenne de l'idée de noter, c'est l'idée de marquer, par exemple pour le sacrifice ou comme bouc émissaire, c'est une notion certainement assez religieuse, n'est-ce pas? C'est marquer comme une infamie marque quelqu'un, c'est isoler en marquant. Eh bien, noter, c'est évidemment marquer. Alors, le problème est donc à l'intersection d'un fleuve continu de vie et puis d'un acte de marquage. Alors, je dis que cette intersection est problématique, oui, parce que c'est en fait le problème du réalisme qui est posé par la notation. Considérer comme possible, c'est-à-dire comme non dérisoire, une pratique de la notation au jour le jour, par exemple, c'est accepter déjà comme possible un retour en spirale au réalisme littéraire. Noter, c'est déjà accepter un certain réalisme littéraire, mais bien sûr en prenant garde de ne pas prendre ce mot dans ses connotations françaises ou politiques, c'est-à-dire ou bien le réalisme par exemple à la Zola, le réalisme des manuels de littérature, ou encore le qu'on a appelé à un moment le réalisme socialiste, le réalisme des romans socialistes. Donc c'est une conception plus large du réalisme, mais prenons-la plutôt comme une pratique d'écriture qui se place volontairement sous l'instance du leur réalité, qui accepte de se placer sous l'instance de la réalité, même comme leur. Donc le problème à ce moment-là, c'est à partir de quoi ou comment organiser et soutenir la notation. Ça, c'est le premier problème, la notation. D'autre part, second problème, comment passer de la notation, de la note qu'on a prise, au roman, c'est-à-dire du discontinu au flux, au nappé. C'est pour moi un problème personnel, je dirais, de type psychostructurel, puisque cela veut dire passer du fragment au non-fragment. C'est ça le problème. C'est-à-dire, dans mon cas, changer mon rapport à l'écriture, c'est-à-dire à l'énonciation, c'est-à-dire encore changer le sujet que je suis. Quand j'écris par fragments et quand je décide de soutenir une écriture par fragments, je m'assume comme sujet fragmenté et par conséquent, comme on l'a dit, on l'a écrit, j'assume, disons, un certain rapport à la castration. Mais si je renonce au fragment, j'assume de changer le sujet que je suis. Et par exemple, d'en venir à un type de rapport à la castration qui sera évidemment différent, sera peut-être plus pervers, plus effusif. Ou encore, si vous voulez, le second problème, c'est le combat de la forme brève et de la forme longue. Encore que, bien entendu, n'est-ce pas, je rêve un peu sur ces problèmes, Parce que chaque fois que l'esprit forme une alternative, avec à la fois, quand on forme une alternative, on ressent à la fois, disons, l'horreur du piège, une alternative c'est un piège, mais en même temps, le délice de la simplification, je dirais. Enfin, choisir est tout compte fait plus facile qu'inventer. Et c'est pour ça qu'on met souvent les problèmes en termes d'alternative. Choisir est cruel et douloureux, mais c'est tout compte fait plus facile qu'inventer. Ce qui est plus difficile dans la vie, c'est d'inventer des solutions et non pas d'en choisir. Bon, je disais donc qu'il n'est pas exclu que on puisse imaginer, je dirais, une tierce forme qui serait, par exemple, un roman par fragment. Pourquoi pas? Un roman fragment. Je pense qu'il en existe, j'en sais rien. Peut-être il y a des romans qui approchent du roman fragment. Tout dépend de la barre, c'est-à-dire du lieu, du flux, de la page, où est marquée la césure du discontinu. Et ici, il faudra, pas moi, mais d'autres, les troisièmes cycles, par exemple, interroger le dispositif visuel des romans, c'est-à-dire les paragraphes, les alinéas, les blancs, ce que Antoine Compagnon, dans un livre qui va paraître bientôt sur ces problèmes-là, aux éditions du Seuil, appelle la périgraphie, c'est-à-dire ce l'appareil qui a l'air d'entourer l'écriture, les titres, les alinéas, les présentations, les citations, etc. Donc la périgraphie devrait être interrogée, la périgraphie d'un certain nombre de romans. Par exemple, je pense à l'aspect, disons, crypto-fragmentaire, clandestinement fragmentaire de Flaubert. Il y a certainement un mouvement fragmentaire dans le roman flaubertien, où il y a très souvent des blancs entre les paragraphes. Ceci devrait être étudié, l'a été d'ailleurs, je crois, par des étudiants. Et puis je pense aussi à ce roman dont je me suis occupé un certain moment, roman réputé tout à fait mineur, mais que personnellement j'aime bien, qui est Asiadée de Loki, où il y a aussi une mise en scène, malgré tout, des fragments. Et sûrement, il y a bien d'autres exemples. Et puis, bien sûr, à un niveau plus profond et moins formel, il faudrait considérer comme une virtualité de fragmentation du roman le discontinu proustien, ce que j'appellerai au futur, parce que je vais en parler plus tard, le rhapsodique, la structure rhapsodique de la recherche. Alors, naturellement, je vais traiter de ces problèmes d'une façon indirecte, comme toujours, c'est-à-dire que je vais les accrocher, ces deux problèmes, la notation, le passage de la note au roman, je vais les accrocher à deux expériences extérieures, c'est-à-dire à deux textes tuteurs. Premièrement, le problème de la notation, l'acte de noter les choses avant d'écrire. J'aurais pu choisir, par exemple, des carnets de romanciers, il en existe, ou bien un journal biographique, et de la notation tout à fait au présent. Alors j'ai préféré, par goût, et aussi parce que serrant au plus près le problème de la forme brève, qui est le problème qui m'intéresse dans la notation, c'est la forme brève, j'ai préféré parler de cette forme brève à propos d'un genre qui est l'essence même de la notation, et de la forme brève, et qui est le haïku japonais. Il y aura donc une série de séances sur le haïku, c'est-à-dire sur un type exemplaire de notation du présent. Et je vous dis tout de suite quelque chose de pratique, ce cours sur le haïku va commencer donc à la rentrée, le 6 janvier. Alors, premièrement, comme il sera très littéraire, peut-être va-t-il diminuer le nombre des auditeurs, ce que je souhaite pour ma part, non pas du tout par désaffection à votre égard, mais parce qu'évidemment, il commence à y avoir un problème pratique. Alors, je vous dis tout de suite, on va entrer pendant 5 ou 6 fois dans une sorte de tunnel extrêmement agréable et très parfumé de poésie, mais qui tout de même sera, disons, peu brûlant et pas très actuel, n'est-ce pas? Alors, cela dit, si tout de même certains d'entre vous viennent à cette série de cours sur le haïku, sur mon haïku, parce que ça ne sera pas une étude historique, bien sûr, alors à ce moment-là, si vraiment certains s'entêtent, je dirais veulent bien s'entêter, eh bien, ils trouveront pour ponctuer ce que j'aurai à dire, j'ai besoin d'un certain nombre d'exemples de haïku, et donc j'ai fait renéotiter une sorte de corpus, c'est un corpus de haïku, il y en a une soixantaine. Je vous précise tout de suite, il s'agit d'un corpus de travail et non pas d'une anthologie. Il ne faut pas vous dire c'est les meilleurs haïkus, ou bien c'est les haïkus qu'il aime lui, c'est-à-dire moi. Donc, ce sont des haïkus où, à propos de quoi, chaque fois, j'ai quelque chose à dire, mais c'est quelquefois de très mauvais haïkus. Alors, ce corpus, ça forme un fascicule renéotypé que vous trouverez, pour autant qu'il y en aura assez d'exemplaires, en arrivant au cours, samedi 6 janvier, dans le petit hall d'entrée, là où il y a l'appariteur, ces recueils renéotypés seront sur une table. Alors, ceux que ça intéresse en prendront un avant d'entrer dans la salle. Voilà, pour le haïku. Donc, le haïku, ça sera donc 5, 6, 7 cours, je ne sais pas exactement encore, accroché au problème de la notation, c'est-à-dire noter le présent. Mais reste le deuxième problème que je pense tout de même on abordera cette année, à la fin du cours, qui est donc le passage du fragment au roman, c'est-à-dire de la notation au flux, de la forme brève au texte long. Et ici, je voudrais me servir, tout au moins j'en ai le projet, de Proust. Et plus précisément, là je voudrais être très précis pour éviter tout malentendu et toute rumeur. J'interrogerai très précisément, non pas la recherche du temps perdu, mais l'épisode biographique au cours duquel il semble que Proust a pu, enfin, après beaucoup d'agitation, d'hésitation, d'indécision et de tentative, il y a un épisode biographique qui au reste est tout à fait mystérieux. Un mois, très bizarre, j'en parlerai, le mois de septembre 1909, au cours duquel il s'est passé quelque chose, nous essaierons de savoir quoi, et à partir de ce mois de septembre, tout d'un coup, Proust apparaît sur la scène biographique comme lancé à fond de train dans cette sorte de fleuve qu'il n'interrompra qu'à sa mort en 1922, au prix d'un effort d'écriture que vous connaissez, au prix de mesures de retraite que vous connaissez, la chambre de Liège, etc. Et fleuve qui, soit dit en passant, fleuve que sa mort, en fait, n'a pas interrompu. Puisqu'il y a eu des publications posthumes, puisque encore plus récemment on a retrouvé du Proust, puisque les avant-textes de la recherche sont actuellement étudiés et vont être publiés, donc toutes choses qui font que le fleuve proustien continue à couler puissamment à partir de ce mois de septembre 1909, et puis je dirais, même sans jouer sur les mots, c'est le fleuve proustien, il traverse notre vie, enfin la vie d'un certain nombre d'entre nous, puisque nous, souvent dans la vie, nous retrouvons des épisodes tout à fait actuels, où nous nous disons, mais ça, Proust l'a dit, Proust l'a décrit. Donc c'est un fleuve qui continue encore maintenant, il y a l'écriture actuelle qui se surimprime encore à l'écriture proustienne. Donc, j'interrogerai cet épisode de biographie en précisant donc que la vie de Proust me paraît de plus en plus intéressante. La vie de Proust me paraît de plus en plus intéressante, c'est-à-dire devant être interrogée du point de vue de l'écriture. Elle n'est pas intéressante peut-être du point de vue romanesque, encore que, mais elle est intéressante du point de vue de l'écriture. C'est-à-dire que la vie est au moins aussi intéressante que l'œuvre du point de vue de l'écriture. Et je pense qu'il faudra de plus en plus concevoir, en tout cas dans les années qui viennent, une sorte de science, si l'on peut dire, de la vie de Proust. Il y aurait Proust en tant qu'auteur de la recherche, avec l'adjectif proustien, et puis il y aurait Marcel, le marcellisme, si vous voulez, c'est-à-dire la science de la vie de Proust. Bon, tel sera donc, en gros, car je ne peux pas encore bien calibrer les parties, l'articulation du cours de cette année, donc deux pivots apparemment absolument disparates, formant une articulation excentrique, d'une certaine circonvolution autour du roman à faire, du roman fantasmé, ces deux niveaux, donc tout à fait contradictoires, c'est le haïku et Proust, et non pas la recherche. Alors, je suis persuadé de la validité de cette opposition, tout au moins j'étais persuadé de la validité de cette opposition, le haïku, Proust, faire un cours sur le roman en commençant par le haïku et en continuant par la vie de Proust. Mais tout de même, je craignais un petit peu qu'elle ne vous paraisse, cette opposition, un petit peu abrupte, et que vous pensiez que peut-être, j'étais en un petit peu elliptique, un peu désinvolte, ou que c'était une opposition, disons, une articulation un peu tirée par les cheveux. Hein. L'expression d'ailleurs énigmatique, tirée par les cheveux. Je pense que c'est du côté de couper un cheveu en quatre. Hein, je suppose. Donc peut-être qu'en effet, vous pourriez penser que parler du haïku dans un cours qui s'annonce sur le roman, c'est un peu tiré par les cheveux. J'étais conscient de ce risque, mais heureusement, car au fond j'ai une certaine chance, grâce aux amis, souvent on a de la chance grâce aux amis, eh bien un ami, à point, m'a fourni une citation, et qui est d'ailleurs une citation de Proust, ce qui tombe encore mieux, qui vient des chroniques, et qui est la suivante, « Raconter les événements, c'est faire connaître l'opéra par le livret seulement. » Mais si j'écrivais un roman, je tâcherais de différencier les musiques successives des jours. Je tâcherais de différencier les musiques successives des jours. Si ayant été écrit avant la recherche, bien entendu. Eh bien, cette citation est exemplaire parce que la musique successive des jours, c'est précisément le haïku. C'est le haïku qui prend en charge la musique successive des jours et qui prend en charge le présent, la moire des instants. Mais en même temps, à l'autre bout, il y a tout de même écrire un roman, c'est-à-dire faire se succéder des événements. Et donc cette citation forme la clé et le lien des deux pivots que j'ai indiqués, et au fond peut-être que ce qui est fantasmé, ce que je fantasme peut-être, moi, mais à ce moment-là, je pense beaucoup d'autres, et peut-être que là, on imagine un avenir assez immédiat de la création romanesque, c'est au fond, ce serait le roman comme opéra. En cherchant du côté de l'opéra, une clé possible, un discours possible sur le roman. Pardon ? Oui, bien sûr. Alors, je vais la citer lentement. Je ne sais pas de quelle chronique il est hérité. De quelle chronique c'est ? Les vacances de Pâques. Oui, une chronique qui s'appellerait Les vacances de Pâques. Bien. C'est en tout cas le recueil qui s'appelle Chronique au pluriel. Alors, je cite, « Raconter les événements, virgule, c'est faire connaître l'opéra par le livret seulement. C'est faire connaître l'opéra par le livret seulement, point virgule. Mais si j'écrivais un roman, je tâcherais, conditionnel, de différencier les musiques successives des jours. Ça va? Bien. Alors, avant de terminer cette introduction, qui est terminée, mais en fait, je veux ajouter deux précisions. Hein, deux précisions, ou si vous voulez, deux confidences que je crois plus juste de vous donner. La première est la suivante. Et après, d'ailleurs, nous arrêterons. Est-ce que, bon, peut-être, pour autant que vous participiez à ce cours, peut-être vous pouvez vous demander, et bien moi c'est ce que je ferais si je m'entendais, est-ce qu'il va réellement faire un roman? Est-ce que réellement il va faire un roman, ou bien est-ce que c'est une espèce d'astuce comme ça? Ben, je vais répondre ceci et ceci seulement. Je vais faire comme si j'allais faire un roman. Je vais faire comme si j'allais en faire un. C'est-à-dire, je vais m'installer dans ce comme si. Je vais m'installer dans le comme si. Je vais m'y installer complètement et loyalement dans le comme si. Et au reste, le cours aurait pu s'appeler... Enfin, c'était pas bien en accord avec les usages encore un peu académiques du collège. Ça aurait pu s'appeler comme si. Comme si. Alors, je veux faire deux remarques sur le comme si. C'est que, à ce moment-là, on peut me dire, et d'ailleurs on m'a déjà dit, en annonçant publiquement, c'est le cas de le dire, que vous allez faire un roman, vous prenez un risque énorme. Prenez un risque énorme à l'annoncer. On m'a pas précisé très bien quel risque, mais je le sens très bien ce risque. Je dirais que c'est un risque magique. En effet, dire à l'avance, c'est bien connu dans toutes les magies du monde, dire à l'avance, c'est détruire. Nommer trop tôt, c'est attirer le mauvais sort. Et c'est la fable même de la peau de l'ours. Ah, donc je suis en train de vendre, si je puis dire, la peau de l'ours avant de l'avoir tué, d'avoir tué le roman. Alors, d'ordinaire, ce risque d'annoncer ce qu'on va écrire, alors que ce n'est absolument pas commencé, ni même vraiment projeté au sens technique du terme, enfin, je n'ai rien dans la tête encore, eh bien, ce risque, je le prends ordinairement très au sérieux. Je m'empêche toujours de parler du livre que je vais faire. Et bien que ce soit toujours la question d'ailleurs, qui part toujours d'un très bon sentiment, qu'est-ce que vous allez nous donner maintenant? Qu'est-ce que vous allez écrire? Qu'est-ce que vous écrivez? Je peux parfaitement répondre à cette question si je n'ai pas l'idée d'écrire ce que je dis que je vais écrire. Mais si vraiment je vais l'écrire, si vraiment c'est dans le réel de ma pratique à venir, je réponds d'une façon en général extrêmement évasive. Or ici, donc, ça n'est pas le cas. Et donc, pourquoi est-ce que cette fois, je prends ce risque, et pourquoi est-ce que, en quelque sorte, je provoque les dieux? Eh bien, je dirais que parce que ce risque fait partie de la mutation dont j'ai parlé, que j'ai fantasmé sous le nom de milieu du chemin de la vie. Cette mutation, en effet, implique la considération d'une sorte de plus rien à perdre. C'est-à-dire, je prends le risque d'annoncer le roman que je veux faire parce que je considère, à tort ou à raison, mais je le considère sincèrement, que je n'ai plus rien à perdre. Alors, plus rien à perdre n'est pas du tout un mot de desperado, mais plutôt la recherche d'une opposition, d'une résistance réfléchie à cette expression si française, cet idiotisme si français qui semble hanter toutes les conduites françaises et qui est perdre la face. J'ai toujours l'impression que dans leur conduite, ou public, politique bien sûr, ou même micro-public, c'est-à-dire la petite scène, les petites scènes de rue, par exemple, ou les petites scènes de bistrot, les Français sont toujours dominés, heureusement pas très longtemps, ça s'arrange après, mais le premier mouvement est toujours dominé par la terreur de perdre la face. Et si cela était vrai, ça serait à voir, à observer un petit peu, ça voudrait dire que les Français, beaucoup plus qu'on ne croit, enfin, à supposer qu'il y ait une sorte de, d'ethnopsychologie, hein, parce que discutable, mais enfin, disons, à titre de sujet de conversation, on peut l'admettre, eh bien, les Français, à ce moment-là, apparaîtraient comme beaucoup plus qu'on ne croit, ce qu'on appelle, vous savez que, je crois que c'est Margaret Mead, la sociologue américaine, a proposé une distinction qui est d'ailleurs tout de même, qui fonctionne très bien, entre les civilisations à honte et les civilisations à faute. Vous voyez très bien le problème, n'est-ce pas? Les civilisations où ce qui fait fonctionner les affects, le pathos, c'est la honte, et bien entendu, ce sont plutôt les civilisations dites archaïques qui sont des civilisations à honte, comme par exemple la civilisation grecque. Et de l'autre côté, il y aurait les civilisations à faute, c'est-à-dire les civilisations où le pathos, l'affect, les conduites sont sous-tendues par un sentiment de culpabilité intériorisé et individualisé. Alors évidemment, on peut dire que les civilisations archaïques sont plutôt des civilisations à honte, que les civilisations judéo-chrétiennes sont plutôt, bien entendu, des civilisations à faute, mais on peut, comme amusement intellectuel, voir un peu comme ça, comment ça fonctionne sur les différents peuples. Il est certain que les Japonais, par exemple, sont plus près d'une civilisation à honte, encore maintenant, que d'une civilisation à faute. On pourrait s'interroger sur, par exemple, la définition de l'islam de ce point de vue-là. Est-ce que c'est du côté de la honte? Est-ce que c'est du côté de la faute? Eh bien, là, moi, je pense qu'au fond, les Français, ils recueillent vraiment les inconvénients des deux civilisations, parce qu'il y a chez eux des traits qui relèvent vraiment d'un sentiment de la honte sociale, de la honte publique, et qui s'expriment par cette phrase « ne pas perdre la face à aucun prix », mais que aussi il y a bien sûr toute une civilisation chrétienne qui fait d'eux des sujets pénétrés souvent à titre individuel de culpabilité. Donc je dirais, pour en revenir à mon sujet, que faire ou ne pas faire le roman, c'est-à-dire le rater ou non, je veux le considérer, je ne veux pas le considérer cela comme une performance, mais plutôt comme un chemin. Et par conséquent, il m'est indifférent, tout au moins je le crois, de perdre la face sur ce problème. Que je fasse le roman ou non, je le fasse bien ou mal, je ne me soucie pas de perdre la face là-dessus. Je n'ai, en quelque sorte, aucune face à perdre. D'ailleurs, deuxième remarque, comme si, j'ai dit, j'allais faire comme si je faisais un roman, c'est le mot de la méthode. Vous savez que c'est un certain mode de travail, par exemple, des mathématiques. Hein, comme si. Poser un problème pour le résoudre, on commence par dire comme si. La méthode, en effet, c'est une exploitation méthodique d'une hypothèse. Eh bien, ici aussi, il y a une exploitation, il y aura une exploitation méthodique d'une hypothèse. Non pas d'explication, d'interprétation, il ne s'agit pas d'interpréter le roman et donc de faire du métaroman, mais d'une hypothèse de production. C'est une méthode de production et non pas d'explication. Troisième petite remarque, la méthode, tout le monde le rappelle quand on emploie ces mots, en grec, méthodos, ça veut dire le chemin, le cheminement. Or, c'est une idée du Tao que j'ai dû certainement citer déjà, que pour le Tao, qui veut dire la voie, est conçu comme étant à la fois le chemin et la fin du parcours, la méthode et l'accomplissement, que à peine sur le chemin, on l'a parcouru. hein, le Tao, écrase en quelque sorte le chemin et l'arrivée. Eh bien, je dirais que ici aussi, ça serait la même chose. La quête du fantasme de roman, est déjà un récit. Donc, rien qu'en préparant le roman, je ne me sens pas exclu du roman et je suis peut-être déjà dans le roman. Enfin, dernière remarque sur ce point du comme-ci, il se pourra que le roman en reste ou soit épuisé et accompli par sa préparation. Peut-être que je ne ferai pas de roman et ce qui restera, ça sera seulement la préparation du roman. Et par conséquent, un autre titre de ce cours pourra être, plus tard, je n'en sais rien, peut-être, par exemple, le roman impossible. Le roman impossible. Et alors, dans ce cas, si c'est comme cela que ça tourne, le travail qui commence sera l'exploration d'un grand thème nostalgique. On pourra considérer que le cours sera une parole nostalgique. Je tournerai autour de ce spectre, la mort de la littérature, qui est plus ou moins autour de nous, mais à ce moment-là, il faut regarder le spectre en face et le regarder justement à partir de la pratique. Donc à ce moment-là, on peut dire que le travail qui commence ne peut être qu'un travail tendu. C'est-à-dire à la fois inquiété par l'échec et actif en même temps, dans la mesure où le pire n'est pas toujours sûr. Dernière précision, donc la première portée sur le « est-ce que je vais faire un roman ?» le « comme si » et maintenant, voici ce que je veux dire. Donc, il s'agit d'interroger une pratique, et par conséquent, il y aura dans le cours des considérations, sinon techniques, tout au moins paratechniques, et d'une technique particulière, littéraire. Hein? Et par conséquent, peut-être je me trompe, mais il y a évidemment, je le disais au début spontanément, il y a des risques de déception, d'inintérêt pour certains d'entre vous. Et c'est une déception que j'essaye d'annoncer pour raréfier l'assistance, mais que d'autre part j'essaye de prévenir pour ne pas justement trop décevoir, et j'essaye de, en nommant la déception, j'essaye de l'éluder. Donc il y a des risques de déception. Et en particulier, bien sûr, surtout à propos du haïku, à première vue, ce sera un tout autre registre que le cours de l'année dernière sur le neutre. Le neutre prenait ouvertement en écharpe une catégorie éthique. Et il n'y avait pas de considération technique. Il n'y a pas de technique du neutre, sauf précisément peut-être dans le Tao. Mais ce sont des techniques magiques. Mais chez nous, il n'y a pas de technique neutre. Donc c'était un sujet de cours essentiellement éthique. Et cependant, il me semble donc, en principe, ça sera technique, même si ce n'est pas très précis, ça sera du côté d'une technique d'écriture. Et cependant, il me semble que toute chose, c'est-à-dire toute action, toute opération, toute intervention, tout geste, tout travail, au fond, a toujours trois aspects. Un aspect technique, un aspect idéologique et un aspect éthique. Alors, si je les prends l'un après l'autre, je dirais que l'idéologique de ce travail qui s'annonce ne m'appartient pas. Je n'ai rien à en dire, c'est à d'autres à nommer cette idéologie. L'idéologique, c'est toujours les autres. On ne parle jamais de son idéologie à soi. Donc, mon idéologique, appartient à la parole des autres et pas à la mienne. Mais, selon mon vœu, ce travail sera, en revanche, à l'articulation indécidable du technique et de l'éthique. Et si vous pensez que dans le champ de l'écriture, le technique a toujours pour assomption une esthétique, dans le champ de l'écriture, ou même de la littérature, disons en gros, le technique, la pratique technique d'écriture, a pour assomption une esthétique, elle communique avec une esthétique. Et bien à ce moment-là, je dirais que le cours, je le prévois, je le voudrais comme situé à l'entrecroisement, à l'enchevêtrement de l'esthétique et de l'éthique. L'enchevêtrement de l'esthétique et de l'éthique, c'est un problème essentiellement kierkegaardien, qui a été traité, énoncé par Kierkegaard dans le livre qui s'appelle « Ou bien, ou bien ». Et je vais énoncer ce problème, ou le rectifier, avec Kafka. Parce que Kafka, dans un livre qui vient de paraître il n'y a pas très longtemps, sont les conversations avec Janusz, jeune tchèque qui a recueilli, enfin qui a accompagné souvent Kafka dans ses promenades en allant chercher à son bureau, quand il était employé dans une sorte de compagnie d'assurance, et Janusz était très jeune et il voulait écrire des vers et il allait chercher Kafka à la sortie du bureau, il faisait des marches dans Prague, et donc il y a des propos qui viennent d'être publiés en français sous le nom d'auteur de Janusz, bien entendu. Et dans ce livre, Kafka dit ceci, n'est-ce pas, ce sont des conversations rapportées, c'est pas de l'écriture, c'est un propos parlé qui est rapporté. Et Janusz écrit, Kafka dit à Janusz, Kierkegaard est confronté au problème suivant. Ou bien jouir de l'être sur le mode esthétique, ou bien vivre l'être sur le mode moral. Mais il me semble que c'est là une façon erronée de poser la question, dit Kafka. Cet « ou bien », c'est le titre du livre, n'existe que dans la tête de Søren Kierkegaard. En réalité, on ne parvient à une jouissance esthétique de l'être qu'à travers une expérience morale et humble. Eh bien, je dirais que le technique, ce que j'appelle le technique en écriture, c'est au fond l'expérience morale et humble de l'écriture, qui n'est pas très éloigné, en somme, du neutre. Alors, est-ce que vous prendrez de l'intérêt à cette expérience morale et humble du haïku, par exemple? Je veux dire, mon interrogation n'est pas une figure de rhétorique. Je veux dire, est-ce que vous prendrez intérêt à ces problèmes de technique d'écriture, vous, dont certains, c'est le moins qu'on puisse dire, n'écrivez pas, et dont certains ne pensaient pas à écrire. En quoi est-ce que ça peut vous concerner, vous qui n'écrivez pas? Bien, mon espoir que cela vous concerne, mais pas trop pour diminuer un peu le public, mon espoir que ça vous concerne repose sur une expérience personnelle, qui est la constatation que je ne m'ennuie jamais personnellement quand les gens parlent de leur métier, quand les gens parlent des problèmes de leur métier, quels qu'ils soient. Malheureusement, vous le savez par expérience comme moi, la plupart du temps, les gens, c'est-à-dire moi aussi, ben les gens souvent, les gens se croient obligés de s'en tenir à ce qu'on appelle une conversation générale, qui est toujours un champ intense de censure. Et combien de fois, je dois dire, j'ai été agacé et frustré parce que dans une conversation que les autres rendaient générale, un spécialiste, que ce soit un plombier, je dirais, ou un médecin, c'est la même chose, que j'aurais tant aimé entendre parler de sa spécialité, de son métier, de sa profession, me tenait des banalités culturelles et philosophiques au lieu précisément de me parler de sa profession. Et en particulier, les intellectuels, comme vous l'avez remarqué, ne parlent jamais de leur métier comme s'ils n'en avaient pas. Ou en tout cas, on ne leur demande pas de parler de leur métier. Les intellectuels, ça a des idées, ça a des positions, mais ça n'a pas de métier. Un métier annexe. Et vous, je ne sais pas si vous avez vu passer dans l'actualité il y a quelques mois un livre qui était un recueil d'interviews fait par Rambure sur la façon dont les écrivains écrivent au sens pratique du terme. Hein? Et je ne sais pas si vous avez remarqué avec quelle ironie amusée et indulgente a été accueillie ces déclarations d'écrivains disant comment matériellement ils pratiquaient au fond leur métier. On a trouvé ça tout à fait dingue que des écrivains s'intéressent à leur stylo, à leur papier ou à leur table. Ça a suscité une ironie absolument amusée. Comment ? C'est absolument futile. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de s'intéresser à ce avec quoi ils écrivent. L'écrivain, ça n'a que des idées. Ça n'a pas de papier, à la limite. Ça n'a pas de stylo. Eh bien, c'est regrettable. Donc, j'espère personnellement qu'on pourra revenir, effectivement, à des considérations, je dirais, plus fines, plus précises, plus matérielles sur le haïku ou sur la notation. Car pour moi, l'alliance de l'esthétique, c'est-à-dire de la technique et de l'éthique, je dirais le champ privilégié de cette alliance de l'esthétique et de l'éthique, c'est l'infime quotidien, ce que j'appellerais le ménager, l'ordre du ménager. Et peut-être que vouloir écrire un roman, ou le roman, ou mon roman, c'est envahir, habiter une pratique d'écriture ménagère. Comme est le haïku d'ailleurs, qui est une écriture ménagère, une écriture du ménage, du quotidien. Et je rappelle que Proust lui-même a comparé le roman qui se fait à une robe que la couturière coupe, assemble, faufile et en un mot prépare, puisque c'est l'intitulé de ce cours, la préparation du roman. Il faut entendre la préparation du roman comme on pouvait dire il y a 50 ans, la préparation d'une robe. Je dis il y a 50 ans parce que du temps de Proust et d'ailleurs du temps de mon enfance, puisque j'ai signalé à un certain moment que j'étais tout à fait enfant, certes, mais que j'existais déjà quand Proust vivait encore, ce pourquoi on m'a reproché de me comparer à Proust. Donc, quand j'étais enfant, Proust vivait encore et je peux dire que dans mon adolescence, comme du temps de Proust, il y avait, je pense que ça a disparu, des couturières à domicile. Et j'ai vraiment le souvenir très précis, chez mes grands-parents à Bayonne, chaque semaine venait une très vieille demoiselle, ça, qui avait un nom merveilleux, qui s'appelait Mademoiselle Sudour, et qui donc, dont la vie, le métier, si on peut dire, un pauvre être déshérité, tout à fait paumé, qui habitait une espèce de chambre dans le vieux Bayonne, et qui, chaque semaine, toutes les semaines, allait chaque jour dans une famille bourgeoise différente faire de la couture. C'était une couturière à domicile. Et vous imaginez, la force de butinage et d'essaimage d'informations que pouvait représenter cette pratique. Et c'est en cela d'ailleurs qu'elle était probablement comme le héros obscur et clandestin du roman. Au fond, le rêve du travail ménager du romancier, ce sera mon dernier fantasme, ce serait d'être une couturière à domicile. Bien, je termine là-dessus. Donc, nous allons nous séparer 5 minutes, ensuite séminaire sur le labyrinthe avec Deleuze. Et donc, rendez-vous le 6 janvier, les recueils de haïku dans le hall.